Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Celui qui a toute autorité, autorité sur le monde, autorité sur les circonstances, autorité dans l'univers, c'est lui qui décide. Il est un Dieu juste, un Dieu juste. La justice est à ses côtés, l'amour est sa nature, la vérité est en lui. Ô Dieu, c'est devant toi que nous nous prosternons ce matin. Et que nous te disons merci pour Jésus. Jésus, Dieu venu en chair. Jésus, Dieu venu à notre niveau. Jésus, Dieu qui nous a démontré sa nature d'amour, de vérité, de justice, de fermeté, de droiture. Ô mon Dieu, merci pour Jésus. Merci. Lorsque nous serons devant toi, nous comprendrons beaucoup, beaucoup mieux. Mais merci pour la révélation que tu nous donnes déjà. Une révélation merveilleuse de ta personne. Merci. Nous voyons des nuages noirs qui couvrent notre monde. Notre monde de toutes parts. La nuit est sur le monde. Plus rien ne va. Plus rien ne va. L'économie est en train de sombrer de plus en plus. Des puissances occultes, sataniques, envahissent à tous les niveaux. Les gouvernements, les chefs, les autorités adhèrent de plus en plus à toutes sortes de sectes, toutes sortes de choses, des ténèbres qui sont une abomination. Ils s'allient les uns avec les autres de plus en plus aujourd'hui. Et ils forment des coalitions ténébreuses pour contrôler le monde. Contrôler chaque individu. Et ceci se dessine de plus en plus clairement à notre époque. Nous voyons que l'ennemi, de plus en plus, sent que son heure arrive. Son heure, son dernier essai de dominer l'humanité pour mieux la détruire, dans sa révolte contre Dieu. Mais son heure aussi de la fin pour lui et du triomphe du roi des rois et du seigneur des seigneurs. L'injustice, la corruption, la violence atteint un niveau terrible. Lorsque nous regardons toutes ces choses, la peur nous saisit et nous nous demandons où va le monde, quel genre de société allons-nous laisser à nos enfants. Tout est là pour détruire la société, détruire la famille, détruire l'entente, détruire l'harmonie et détruire les nations. De plus en plus, ouvrons les yeux. Nous avons besoin plus que jamais de la lumière de la gloire de Dieu. La lumière est nécessaire à la vie. Elle est nécessaire à la vie, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle. La lumière est nécessaire. Les ténèbres sont synonymes de mort, de mort. Mais notre Dieu, celui que nous adorons, est le Dieu de la lumière, le Dieu de la gloire, et c'est lui qui dissipera les ténèbres. Il est sur son trône, et cette lumière, elle est dans nos cœurs depuis le jour où nous avons cru. Cette lumière est dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle dans nos cœurs, il n'y a point de ténèbres. Le mensonge représente les ténèbres. Le manque de fidélité représente les ténèbres. La corruption représente les ténèbres. Les manipulations occultes, à quelque niveau que ce soit, représentent les ténèbres. De plus en plus, les ténèbres envahissent le monde. Nous voyons le mensonge partout, partout, qui envahit notre société. Nous avons besoin de lumière, et cette lumière ne peut être manifestée qu'à travers le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Et il va la manifester, et il veut la manifester à travers ses enfants dans lesquels il habite. Nous la verrons, cette gloire. Nous pouvons déjà la voir dans nos cœurs, la voir dans nos vies, voir cette gloire se manifester dans notre Église. Si nous veillons, et que fidèlement, nous faisons ce qu'il a ordonné de faire. Il est dit qu'à la nuit de la naissance de Jésus, celui qui est la lumière du monde, dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, il est dit là, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Je vais lire là quelques passages, j'appellerai ces passages des passages classiques qui nous parlent de Noël, mais qui contiennent des vérités qui sont pour nous une force, un encouragement au milieu de ce monde envahi de plus en plus par les ténèbres. Verset 9, « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. » La gloire du Seigneur, une lumière qui envahit l'espace tout entier, une lumière qui chasse les ténèbres de la nuit. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ne soyez pas dans la crainte. La crainte est dans le cœur des hommes de notre génération, lorsqu'ils voient toutes ces puissances mauvaises qui semblent avoir le dessus. Non, elles n'ont pas le dessus. Nous sommes plus forts par Jésus-Christ le Seigneur, qui est venu dans ce monde pour nous libérer du péché et des ténèbres. Il est lumière, et la lumière est plus forte que les ténèbres. Ne craignez point, soyez sans crainte. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui dans notre monde. Nous avons besoin de bonnes nouvelles pour nous réjouir, pour pouvoir ainsi aller de l'avant avec plus de courage. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur qui est le Christ le Seigneur. C'est-à-dire le Christ le Messie, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Il y a différentes traductions. Qui l'agréent, qui l'acceptent, qui acceptent le Sauveur, qui sont acceptés par le Sauveur. Il est venu dans ce monde pour répandre sa lumière, la lumière de la vie. Ces hommes passaient les nuits dans les champs, à veiller sur leurs troupeaux. Ils sont là, fidèles au travail dans lequel ils sont engagés, pour garder leurs troupeaux pendant la nuit. Peut-être qu'ils pensent que leur vie n'est pas tellement agréable. Passer la nuit ainsi avec les troupeaux, roulés dans leur manteau, avec quelqu'un qui veille à tout moment contre les prédateurs. Peut-être que ces bergers devaient penser que leur vie était très rude et qu'ils voyaient à l'horizon les lointaines lointaines lumières de la ville. Ils se disaient, ceux-là, ils ont au moins le privilège de pouvoir rester chez eux et de pouvoir se reposer dans une maison confortable. Mais regardez notre condition. Notre condition, nous ne sommes pas riches. Et nous vivons, nous travaillons pour gagner notre pain. Vie difficile, mais ce sont des hommes fidèles. Vie pénible, mais ils restent fidèles. Ils sont peu rémunérés, mais ils restent fidèles. Peut-être que leur troupeau ne leur appartient pas. Ils le font pour des maîtres qui sont certainement riches. Ignorez des hommes, là, qui connaît leur nom. Mais il y en a un qui connaît leur nom. Un qui connaît leur nom. Car devant Dieu, il n'y a aucun individu qui ne soit sans valeur. Il a mis une valeur dans chaque individu. Celui qui est inconnu, celui qui est pauvre, celui qui n'est pas riche, celui qui n'a aucune influence dans la société, il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et personne n'est dans ce monde par hasard. Chacun a une tâche à accomplir. C'est à eux, à ce genre d'hommes-là, que la gloire de Dieu s'est manifestée en ce jour. Les hommes ne les voient pas, mais Dieu les voit et Dieu les connaît. Dieu voit et récompense la fidélité. Fidélité dans les petites choses. Combien d'entre nous, nous manquons de fidélité dans les petites choses? Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut nous élever à de plus grandes choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Et si Dieu ne juge pas bon de nous élever aux yeux des autres, peu importe si nous sommes fidèles dans la tâche que Dieu nous a donnée, nous sommes élevés à ses yeux. Combien l'élévation aux yeux de Dieu est plus valable que l'élévation aux yeux des hommes. Pour les hommes, l'élévation, c'est d'avoir un beau costume, une belle voiture, une maison, un titre, et pouvoir voyager à l'extérieur du pays. Nous entendons ces aberrations. Combien de fois dans notre propre pays, même parmi ceux qui prêchent l'Évangile et qui se disent pasteurs, ils se pensent élevés parce qu'ils voyagent, élevés parce qu'ils ont une certaine notoriété. Non, mon frère, ma sœur, tout cela n'est que poussière. Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce que Dieu nous voit, chacun d'entre nous, qui que nous soyons? Peut-être très, très petit. Alors que celui que nous méprisons et que nous voyons comme être petit est grand aux yeux de Dieu à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité et de sa marche constante, sans jamais broncher, sa marche constante dans le chemin de la fidélité, dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la justice. Dieu est un Dieu qui voit ce que l'homme ne voit pas, et il rend à chacun selon ses œuvres. Frères, sœurs, mieux vaut l'élévation de Dieu à ses propres yeux, à lui, que celle des hommes, car celle des hommes mène à l'orgueil, à la suffisance. Celle des hommes n'est que vanité. Oh mon Dieu, merci de ce que cette bonne nouvelle a été annoncée au milieu d'une grande gloire et d'une grande lumière à ces bergers dans ces champs. Merci Seigneur pour cette révélation que tu as donnée à ceux que les hommes appellent des petits, mais qui, à tes yeux, sont grands à cause de leur fidélité, à cause de leur foi simple, simple, mais vraie et fondée sur des vérités. Car tu ne te révèles pas à des païens au milieu d'une grande gloire. Tu ne te révèles pas à des rebelles qui désobéissent à ta parole. Mais tu te révèles à ceux dont le cœur est ouvert pour marcher dans la lumière et la vérité. Ces bergers virent une grande lumière, une lumière qui illumina le ciel de la nuit, un spectacle inouï, impensable à imaginer, impossible d'imaginer. Tout est illuminé autour d'eux, et chose extraordinaire. L'éclat est tellement grand, mais malgré cet éclat, leurs yeux peuvent le supporter. Ce rayonnement de la gloire de Dieu, ils sont les seuls à le voir. Tous les autres autour d'eux dorment dans leur maison bien confortable, pensant que eux, ils ont tout ce qu'il faut et ils sont satisfaits. Et même s'ils sont satisfaits, avec tous les biens qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont acquis, ils sont toujours désireux d'avoir plus. Ils sont toujours désireux et jamais contents. Le contentement n'est pas dans le cœur, la plupart du temps, de celui qui possède déjà. Il n'a pas le contentement. Frères et sœurs, avoir le contentement, c'est une richesse. C'est une richesse. Ceux qui dorment dans leur maison n'ont rien vu. Seuls ceux qui veillent ont vu. Seuls ceux qui veillent peuvent voir. Est-ce que nous veillons, frères et sœurs? Quelle est notre attitude aujourd'hui devant les circonstances de ce monde? Allons-nous suivre le courant de ce monde tel qu'il se révèle aujourd'hui autour de nous? Allons-nous simplement faire ce que les autres font en nous excusant par toutes sortes d'excuses de tout genre? Non, mes frères, plus que jamais, nous devons nous aussi veiller afin de pouvoir contempler cette lumière éclatante qui se manifestera en ce jour lorsqu'il viendra nous chercher. Ne dormons pas. Ceux qui veillent ont vu cette grande lumière. Le libérateur, le sauveur du monde est là. Il est venu. Le Créateur, le Messie tant attendu, duquel les prophètes ont parlé dans les âges passés. Les prophètes ont parlé. Il est la parole qui a été faite chair. Il est l'expression de Dieu. Oui, l'expression de Dieu. Celui qui est né à Bethléem en cette nuit-là, il est l'expression de Dieu personnifié dans un corps humain suivant le cycle naturel de la naissance et de la croissance pour arriver à être un adulte et pour finir sur une croix avec une couronne d'épines pour sauver les hommes de leurs péchés. La justice de Dieu l'exige. Personne d'autre ne pouvait donner sa vie en prenant les péchés des hommes de l'humanité tout entière. Il fallait que ce soit un agneau pur et sans tache. Tel était le symbole dans le livre de l'Exode. Le symbole qui a sauvé Israël du joug de Pharaon et de l'esclavage. Un agneau pur et sans tache qui devait être offert et dont le sang devait être mis sur les linteaux et les poteaux des maisons afin que le destructeur ne vienne pas aussi tuer les premiers-nés. Lui, Jésus, le premier-né par excellence, est venu comme l'agneau. L'agneau, il est né dans une étable, un agneau. C'est normal qu'il naisse dans une étable. Il est couché dans une crèche. Il est normal qu'il soit couché dans cette crèche. Pourquoi? Quoique fils du roi éternel, quoique héritier de la couronne de l'éternité, héritier de la gloire de Dieu, il a fallu qu'il s'abaisse. Oui, qu'il devienne l'agneau, l'agneau qui naîtrait dans une étable, non pas dans le palais d'un roi. Non, il est venu pour sauver aussi bien le roi que le mendiant. Et il fallait qu'il naisse dans une étable. Dans Jean 1:1, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Oui, cette parole personnifiée, elle est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 9 de 1 Jean. C'est de Jean 1 plutôt. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et au verset 14 du même chapitre de Jean, il est écrit « La parole a été faite chair ». Cette parole dont il est question, un peu plus haut, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole par laquelle tout a été fait, tout a été fait. Le monde qui nous entoure, l'univers tout entier, la complexité de la nature, toutes ces sciences, toutes ces technologies, toutes ces mathématiques, toutes ces choses que Dieu a créées, selon des principes mathématiques et physiques que nous n'avons même pas entièrement découverts. Tout cela est dans la parole. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous. Dans le corps d'un petit enfant. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Cette parole créatrice. Elle a habité parmi nous. Elle a résidé parmi nous. Sur notre terre. Jésus. Et cette parole, après avoir donné sa vie sur la croix de Golgotha, après être ressuscité, elle est montée au ciel dans la gloire, dans un corps nouveau, Lors de sa naissance, il avait un corps tel que le nôtre. Lors de sa naissance, puisqu'il est né d'une femme que Dieu a choisie et dans laquelle Dieu a provoqué que ses cellules se rencontrent, une cellule qu'il a créée dans le sein de cette femme, afin qu'elle rencontre la cellule, l'œuf, dans le corps de la femme, ce corps s'est développé. Alléluia. Est-ce difficile pour Dieu de créer une cellule mâle? Oh, certes non. Certes non. Mais, ce bébé qui allait naître et qui naîtrait comme chaque individu sur cette terre était sans péché. Il est l'agneau parfait. L'agneau parfait. La parole a été faite chair. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Et ce bébé de Bethléem qui a passé ses 9 mois dans le sein de sa mère pour naître après 9 mois, naître comme tout être humain naît, et que la mère a pris dans ses bras et qu'elle a nourri de son sein, ce bébé, c'est Dieu en chair. Miracle! Merveille! N'êtes-vous pas enthousiasmé et étonné lorsque vous voyez cela? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ce qui a été annoncé par cette parole, c'est la vérité. Et celui qui croit à cette vérité vivra éternellement. Ne cherchez pas 1000 autres vérités. Notre monde est rempli de mensonges, rempli de fausses doctrines, rempli de fausses religions, rempli de sectes, rempli de toutes sortes de manipulations occultes. Tout cela n'est que mensonge. Beaucoup ont la Bible entre leurs mains et même des Bibles falsifiées. Tout ça, c'est du mensonge de l'ennemi. D'autres ont la vraie Bible dans leurs mains, mais ils en tordent le sens et ils rendent la Bible menteuse par leur interprétation fantaisiste, destructive et satanique. Non, il est la vérité. Qu'avons-nous à ajouter à cette parole? Qu'avons-nous à ajouter à ce saint livre? Ô frères, sœurs, faisons attention de ne pas appeler sur nous la malédiction. La malédiction, à cause de notre suffisance, nous nous croyons intelligents. Nous inventons de nouvelles doctrines, de nouvelles organisations dites religieuses, de nouveaux fanatismes. Rejetons tout cela. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, c'est-à-dire d'amour, de compassion, d'endurance, pleine de grâce, de pardon. Voilà ce que cela veut dire. Pleine de grâce, de pardon et de vérité. Qui veut profiter de cela? Et nous avons contemplé sa gloire. J'en peux dire, j'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire même alors qu'il pendait au bois. Oui, j'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire qui a éclaté au tombeau. Lorsque le tombeau était vide, j'ai vu sa gloire lorsqu'il est monté au ciel. J'ai vu sa gloire lorsqu'il a guéri les malades, lorsqu'il a ressuscité les morts. J'ai vu sa gloire, sa gloire, sa gloire. Je l'ai vue et je la verrai encore. Et il m'a encore révélé sa gloire. Là, lorsque, au premier jour de la semaine, sur l'île de Patmos, je fus transporté dans la gloire, oui, dans la gloire. Je l'ai vu tel qu'il est maintenant. Je l'ai vu et je n'ai pu supporter ce que j'ai vu. Je suis tombé à terre comme mort. Car moi, Jean, j'ai connu Jésus. J'ai mis ma tête sur sa poitrine. Combien de fois? C'était mon ami intime. Je pouvais parler avec lui, mais il était là. L'homme L'homme qui allait donner sa vie. Il a donné sa vie. J'ai vu son corps percé. J'ai vu les clous et le sang versé. J'ai vu sa tête, son crâne être déchiré par les épines. J'ai vu tout cela. Oui, j'ai vu. Je ne comprenais pas. Je l'ai même conduit au tombeau. Mais le jour où je suis arrivé au tombeau et que j'ai vu ce tombeau vide, j'ai compris et j'ai cru. J'ai cru et la paix et la joie et la gloire de Dieu a rempli mon âme. C'est la raison pour laquelle j'ai pu persévérer dans la persécution, dans le rejet, alors que j'ai été injustement arrêté et mis en déportation sur cette île pour casser des pierres pour le gouvernement romain. J'ai vu sa gloire encore, une gloire que je ne peux même décrire, car quand je la décris, je ne peux que la comparer, semblable à, comme à, qui ressemble à. Je ne pouvais même pas le soutenir, ce Jésus que j'ai tant aimé. Il a vaincu. J'ai vu sa gloire. La gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une gloire, une lumière éclatante. Dieu révèle sa gloire, l'éclat de sa lumière, sa personne, aux humbles, aux petits de ce monde, aux faibles de cette terre. Il révèle sa gloire aussi aux grands qui savent s'humilier devant sa majesté et qui le reconnaissent dans sa souveraineté. Nous avons tendance, certaines fois, à dire que les grands, ils sont perdus parce qu'ils sont grands dans le monde. Nous avons tendance à dire que les riches sont perdus parce qu'ils sont riches. Et voilà, ils sont perdus. Eh bien, c'est une erreur. Cette gloire, il veut la révéler aux pauvres, aux malheureux, aux grands et aux riches, afin qu'ils s'humilient. Ô toi qui es grand à tes propres yeux, toi qui es grand parce que les autres t'ont fait grand, toi qui es grand à cause de tes études, à cause de ton savoir, toi qui es grand à cause de ta position sociale, et ta position comme étant le chef d'un État quelconque. Toi qui es grand et respecté de tous, parce que tu es le chef d'une grande armée. Toi qui es grand, parce que tu as une autorité, sache que Dieu t'appelle toi aussi. Si seulement tu veux t'humilier et le reconnaître, alors sa gloire sera pour toi, et la lumière pénétrera dans ton cœur et dans ton âme. Toi qui possèdes des biens, en grand nombre, puisses-tu t'humilier devant lui et savoir que tout ce que tu possèdes ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a aimé, l'agneau de Dieu qui est né à Bethléem. Sa majesté et sa gloire, sa souveraineté, tu dois la reconnaître. Tu n'es qu'un homme de chair. Dans le passé, tous les grands de ce monde ont toujours essayé de vivre plus longtemps et même de vivre éternellement. Ils ont pris toutes sortes de choses, de préparations magiques. On leur disait que ça prolongerait leur vie. Et on a cherché par l'alchimie et toutes sortes de pratiques magiques et autres, à allonger les jours de ces grands conquérants, les jours de ces grands hommes de ce monde. Mais malgré cela, ils sont morts en leur temps. Et bien, parmi ces hommes, beaucoup d'entre eux sont morts même avant que ce soit leur temps, pour la bonne raison que par les manipulations qu'on leur a données à manger ou à boire pour allonger leur vie, ils se sont empoisonnés. La Bible, l'histoire nous le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, tous cherchent à allonger leurs jours. Et c'est ainsi que certains ont pris le nom de CCCO. Oh, mes frères, la stupidité de l'homme, aucun homme, par aucune pratique, ne peut ajouter un seul jour à sa vie. Aucun! Aucun! C'est pourquoi, quel que soit ton titre et ta position, souviens-toi Souviens-toi que tu ne peux allonger les jours de ta vie. Tu ne peux le faire. Tu as meilleur temps de penser à l'éternité. Car celui qui possède la vie, c'est ce petit bébé de Bethléem qui a grandi et qui a donné sa vie, qui a donné sa vie pour la rançon, l'agneau de Dieu. Ce qu'il demande, cette parole qui a été faite chair, c'est l'obéissance et la fidélité. La fidélité, l'obéissance et la foi, des choses qui marchent ensemble. Cessez de vous moquer de ceux qui croient dans la parole de Dieu. Cessez de vous moquer de ceux qui croient à la naissance et à la conception miraculeuse du Fils de Dieu. Cessez de vous moquer de ceux qui parlent de la sainteté, de la vérité, de la vraie foi basée sur la parole de Dieu. Cessez de manipuler vos fétiches et vos puissances occultes pour essayer d'enrayer l'action de ces gens qui croient dans le Dieu vivant et qui vous gênent. Cessez, car ces choses que vous faites se retourneront contre vous. Notre Dieu est sur le trône et il protège ses enfants. Il protège ses enfants. Et ça, c'est le message de Noël. Il nous garde et nous sommes en sécurité dans sa main. Nous sommes en sécurité dans sa main. Alléluia! Alléluia! Vous pouvez invoquer vos dieux. Vous pouvez invoquer vos fétiches. Vous pouvez invoquer tout le satanisme que vous voulez accomplir ou faire. Mais nous savons que nous nous tenons sur le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher des âges. Et nous sommes inébranlables. Car celui que nous servons est inébranlable. Et c'est lui qui règnera à la fin des temps. C'est lui qui règnera sur cette terre. Son règne n'aura pas de fin. Voilà le message de l'ange à Marie. Son règne n'aura pas de fin. Et le moment vient où son règne s'établira sur cette terre. Dieu révèle sa gloire. Une gloire merveilleuse. Dieu bénit l'obéissance. Il bénit la fidélité. Il bénit la foi. Je l'ai dit et je l'ai déjà dit. La foi n'a qu'une base, la parole de Dieu. Tout le reste, c'est de la croyance ou de la superstition. La foi n'a qu'une base, la parole de Dieu. Et c'est le rocher sur lequel nous nous tenons, merveilleux Sauveur. Cette gloire remplit l'espace où se trouvaient ces bergers. Ils furent saisis d'une grande crainte. Réaction normale de l'homme de chair. Réaction humaine devant le miraculeux, devant l'impossible. Devant l'impossible. Réaction normale de l'homme naturel en présence du Dieu vivant, du Dieu puissant et de la manifestation de sa gloire. Supposez que subitement la gloire de Dieu se manifeste de façon visible dans ce lieu. Croyez-moi, nous allons avoir des réactions. Nous n'allons pas rester calmes sur notre chaise. Quelques-uns vont fuir, car les ténèbres sont dans leur cœur et ils n'ont jamais chassé ces ténèbres. Et la gloire de Dieu les fera fuir. Ils ne pourront supporter cette gloire. D'autres, au contraire, se jetteront à genoux, pleureront et trembleront. Qui suis-je, ô Dieu, pour voir cette gloire? Ces hommes, ces bergers ont vu cette gloire, Seigneur. Ils étaient, Seigneur, des privilégiés. Je n'ai jamais pu contempler de mes propres yeux cette gloire, mais je sais qu'un jour, mes yeux, et non pas ceux d'un autre, verront cette gloire. Ils verront cette gloire et je contemplerai mon Seigneur, celui que j'ai aimé, auquel j'ai donné ma vie, la manifestation de sa gloire. Qui peut voir Dieu dans sa gloire? Nous voyons que Daniel a une vision et cette même vision, ces gens qui l'ont eue Et les deux ont vu le même personnage dans Daniel 10, 6 à 9 et Apocalypse 1, 13 à 17. Jean a eu cette même personne qui est venue. Et leurs descriptions sont les mêmes. Et leurs réactions aux deux ont été les mêmes. Ils sont tombés sur leur face. Il n'y avait personne pour les attraper. Oh non! Et ils ne sont pas tombés sur le dos. Non! Il n'y avait personne pour les attraper. Ils sont tombés sur leur face. Alléluia! Oh Jésus, ils ne se sont pas fait mal, croyez-moi. Oh Jésus, la réaction de l'homme naturel. La réaction de l'homme naturel devant la gloire de Dieu. Oh, puissions-nous voir sa gloire. Sa gloire, peu importe si nous ne pouvons pas la voir pour l'instant, nous la verrons un jour et nous serons capables de la supporter, cette gloire. Ça, c'est le message de Noël, mes frères. Jean a essayé de décrire, Daniel a essayé de décrire ce qu'il a vu, mais ils ne purent le faire. Oui, oui, la naissance de ce bébé nous annonce tout cela, et encore bien plus que tout cela. Il a laissé sa gloire de côté, c'est ce que nous dit l'Évangile. Il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, 7 nous dit ceci, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. » Vous voyez ? En prenant la condition d'esclave, et par définition, un esclave n'a plus de droits. Qui avait les droits sur lui? Son père. Qu'a-t-il dit combien de fois? Ce n'est pas moi, mais c'est le père qui m'a dit de vous dire ceci. Ceci ne vient pas de moi, mais vient du père. Il était esclave. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas les Romains ni les Juifs qui l'ont humilié. Non, il s'est humilié lui-même. En devenant obéissant, aïe, 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 obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi il est né à Bethléem. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, vous voyez, semblable aux hommes, ressemblant aux hommes, est dans la situation d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a un pouvoir particulier pour s'entourer comme d'une bulle, qu'on ne puisse pas l'attaquer, et si on lui tire dessus, si on veut le battre, ça ne va pas avoir aucun résultat parce qu'il est dans ce genre de bulle. Non, non. La situation d'un homme, il a besoin de manger, il a besoin de dormir. Il se lave. Il a besoin d'aide des autres. Il connaît la fatigue. Il connaît la soif. Nous le voyons dormir dans la tempête, dans la barque. Nous le voyons assis auprès du puits. Il est fatigué. Il demande à boire. La situation d'un homme, ça, c'est le message de Bethléem. C'est pourquoi il nous comprend. C'est pourquoi il peut compatir avec nos besoins. Car il sait ce que c'est que la faim, il sait ce que c'est que la fatigue, il sait ce que c'est que la tentation. Satan l'a emmené dans le désert et lui a dit, voilà, tu n'as pas besoin de souffrir sur la croix. Non, 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 c'est trop. Tu n'as pas besoin de souffrir sur la croix. Tu peux avoir tout. Je sais que tu veux avoir la domination sur cette terre. Eh bien, je te le donne, espèce de menteur, usurpateur et voleur. Tu domines ce monde, c'est vrai. Je te le donne si tu te prosternes devant moi et m'adores. Voilà ce qu'il voulait, lui. Il cherche la, la, la prépondérance. Il cherche l'adoration. Voilà ce qu'il cherche. Jésus le connaît, il le sait. Non, il n'a pas voulu choisir le chemin facile. Il a pensé à toi et à moi. Voilà. Et il fallait qu'il meure pour mon salut et ton salut. Ton nom à toi et mon nom à moi, il les connaissait déjà. Et quand il pensait à toi et qu'il pensait à moi, il s'est dit, non, je dois aller jusqu'au bout. Je ne veux pas le chemin facile qui m'est proposé par ce voleur et ce menteur. Satan, tu es un voleur et un menteur. Et ta tête va être écrasée par ma mort et ma résurrection. Je suis plus que vainqueur. Oui, il connaît la tentation. Il est né pour mourir sur une croix, afin que l'homme, sous la condamnation du péché et de la mort, vive éternellement. Oh Jésus, pour que l'homme vive éternellement. Baissons la tête. Oh Seigneur, nous ne savons comment nous exprimer devant toi, Seigneur. Ta parole nous parle, Seigneur. Ta gloire, la lumière de ta gloire, c'est la vie, et tu veux nous donner la vie en abondance. Tu veux, Seigneur, nous utiliser et glorifier ton nom. Seigneur mon Dieu, nous vivons dans des temps difficiles. Des nuages noirs couvrent notre planète. Des puissances adverses se lèvent de plus en plus pour dominer, Seigneur, l'humanité, pour manipuler l'humanité. On écrase, on tue, Seigneur, on ment et on manipule. Mais toi, tu es sur le trône et tu as ton Église et rien ne prévaudra contre ton Église. Tu vis éternellement. Et Seigneur, tu es le plus fort dans le combat de ces derniers temps. Merci Père, merci. Ta parole est la vérité. Et que cette parole pénètre dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle pénètre dans nos âmes et que nous puissions vivre par elle au nom de Jésus.
Alléluia. Alors que le service d'accueil s'approche pour les offrandes,
nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.